Tout cela sonne trop bien. Il doit y avoir un vice qu'on me cache, pensa le hutin. Cette Clémence doit être borgne ou bien bossue. Et comment se présente-t-elle ? Pour la figure, demanda-t-il. Mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples. Et les peintres, m'assure-t-on, s'efforcent d'imiter ses traits lorsqu'ils peignent aux églises le visage de la Vierge. Déjà dans son enfance, il m'en souvient, elle promettait d'être remarquable en beauté, et tout laisse à penser qu'elle a tenu ses promesses. Il paraît en effet qu'elle est fort belle, dit Louis d'Evreux. Et vertueuse, ajouta Valois. J'attends qu'on retrouve en elle toutes les qualités qui ornaient sa tante Marguerite d'Anjou, ma première femme, que Dieu garde. J'ajouterai, mais qui de vous l'ignore, qu'un autre de ses oncles, et mien beau-frère, Louis d'Anjou, fut ce saint évêque de Toulouse qui avait renoncé à régner pour entrer en religion et dont la tombe à présent produit des miracles. Ainsi, nous aurons bientôt deux saints Louis dans la famille, remarqua Robert d'Artois. Mon oncle, votre idée est heureuse, cela me semble, dit Louis X. Fille de roi, sœur de roi, nièce de roi et de saint, belle et vertueuse. Ah, elle n'est point brune au moins, comme la bourguignonne, car alors je ne pourrais point. « Non, 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 mon neveu, » s'empressa de répondre Valois. « Soyez sans crainte, elle est blonde, de bonne race franque. »« Et vous pensez, Charles, que cette famille, pieuse ainsi que vous la décrivez, irait consentir aux fiançailles avant l'annulation ?» demanda Louis d'Evreux. Monseigneur de Valois se gonfla, torse et panse. « Je suis trop bon allié de mes parents de Naples pour qu'ils aient rien à me refuser, » répliqua-t-il. « Et les deux entreprises peuvent se conduire de pair. » La reine Marie, qui a jadis tenu à honneur de me donner une de ses filles, m'accordera bien sa petite fille pour le plus cher de mes neveux, et pour qu'elle soit reine au plus beau royaume du monde, j'en fais mon affaire. Alors, ne laissons pas d'agir, mon oncle, dit Louis X. Envoyons une ambassade à Naples. Qu'en pensez-vous, Robert ?
Robert d'Artois s'avança d'un pas, paume ouverte, comme s'il se proposait à partir sur le champ pour l'Italie. Le comte d'Evreux intervint encore. Il n'avait aucune hostilité au projet, mais pareille décision était affaire de royaume autant que de famille, et il demandait qu'elle soit débattue en conseil.
« Mathieu, » dit aussitôt Louis X en s'adressant à son chambellan, « faites savoir à Marigny qu'il est à convoquer le conseil demain matin. »
À s'écouter prononcer ces paroles, le hutin éprouva un certain plaisir. Brusquement, il se sentait roi.
« Pourquoi Marigny ?» dit Valois. « Je puis bien, si vous le souhaitez, m'en charger moi-même ou en charger mon chancelier. » Marigny cumule trop de tâches et préparativement des conseils qui n'ont rôle que de l'approuver, sans regarder de bien près ses trafics. Mais nous allons changer cela, sire mon neveu, et je m'en vais vous réunir un conseil mieux digne de vous servir.
C'est fort juste. Eh bien, faites, mon oncle, faites ainsi, répondit Louis X avec un regain d'assurance et comme si l'initiative venait de lui.
Les vêtements étaient secs et chacun se rhabilla.
Belle et vertueuse. « Belle et vertueuse », se répétait Louis X. Il fut à ce moment repris d'un accès de toux et entendit à peine les adieux qu'on lui faisait.
Descendant l'escalier, d'Artois dit à Valois,
« Ah, mon cousin, comme vous lui avez bien vendu votre nièce Clémence. J'en connais un ce soir que ses draps vont brûler. »«
Robert !» fit Valois d'un ton de feinte réprimande. « N'oubliez pas que c'est du roi que vous parlez désormais. »
Le comte d'Evreux les suivait en silence. Il songeait à la princesse qui vivait dans un château de Naples et dont le sort à son insu venait peut-être de se décider aujourd'hui. Monseigneur d'Evreux était toujours frappé de la manière fortuite, mystérieuse, dont s'agençaient les destinées humaines. Parce qu'un grand souverain était mort avant son heure, parce qu'un jeune roi supportait mal le célibat, parce que son oncle était impatient de le satisfaire pour affirmer l'empire qu'il exerçait sur lui, parce qu'un nom lancé avait été retenue, une jeune fille aux cheveux blonds, et qui, à 500 lieues de distance, devant une mer éternellement bleue, pensait vivre un jour comme les autres, se trouvait devenir le centre des préoccupations de la cour de France. Louis d'Evreux eut un nouvel accès de scrupule.
« Mon frère, » dit-il à Valois, « cette petite Jeanne, croyez-vous vraiment qu'elle soit bâtarde ?»«
Aujourd'hui, je n'en suis pas encore certain, mon frère, » dit Valois en lui posant sur l'épaule sa main baguée. Mais je vous assure bien qu'avant longtemps, tout le monde la tiendra pour telle. » À partir de quoi le méditatif comte d'Evreux aurait pu se dire également «
Parce qu'une princesse de France prit un amant, parce que sa belle-sœur d'Angleterre la dénonça, parce qu'un roi justicier rendit le scandale public, parce qu'un mari humilié reporta sa vindicte sur une enfant qu'il voulut déclarer illégitime.
Les conséquences appartenaient au futur, à ce déroulement d'une fatalité en constante création par la combinaison continue de la force des choses et des actes des hommes.